tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Alors moi, ce que j'ai pu constater effectivement de la part des clients que j'ai accompagnés, encore une fois, c'est qu'ils étaient tous ce que l'on a appelé des bons petits soldats. Et c'est une de mes clientes d'ailleurs qui m'avait dit elle-même, j'étais un bon petit soldat. Le bon petit soldat, donc c'est celui qui devient potentiellement un grand brûlé. C'est celui qui est hyper investi, qui a souvent entendu dire dans son enfance, et ça je cite une de mes clientes, il faut que le travail soit fait et qu'il soit bien fait. Donc le maître mot, c'est que le travail soit fait et bien fait, et donc une attente aussi très importante de reconnaissance au travers du travail qui est effectué, quel qu'il soit, dans les entreprises. C'est également des gens qui ont des fortes valeurs de respect, d'honnêteté intellectuelle, et qui ne veulent pas franchir la ligne rouge, qui ne se satisfont pas d'arrangements.
Je parle beaucoup dans cet épisode parce qu'il y est question de justice, de droit social et de burn-out, des sujets qui me tiennent à cœur. Comme interlocutrice, je ne pouvais pas espérer mieux qu'une avocate spécialisée en droit social est désormais auteure sur ces questions. En effet, elle a récemment coécrit un livre avec le docteur Guillaume Font, psychiatre, un livre qui s'intitule « Voyage au cœur de la souffrance, regard croisé d'un psychiatre et d'une avocat sur le burn-out et le harcèlement professionnel ». Le livre est paru juste avant le confinement aux éditions Lattès. Bien entendu, je ne peux que vous recommander sa lecture qui m'a beaucoup plu et dont nous abordons les grandes thématiques avec elle durant cet épisode, sans pour autant dévoiler nuances et forces des exemples et des solutions qui s'y trouvent. Ainsi, nous évoquons ensemble la définition du burn-out, le profil du grand brûlé, la culpabilité et le déni, bien souvent corrélés à l'épuisement professionnel, les signes avant-coureurs en point d'alerte, les réflexes à adopter quand on se sent brûlé de l'intérieur, l'accompagnement nécessaire qu'il convient de mettre en place pour s'en sortir et l'injonction souvent pernicieuse de bonheur au travail. Je vous conseille de prendre un crayon et un papier pour écouter Maître Reichmann, tant ses propos sont riches d'enseignements. Et outre son ouvrage, j'ai également voulu recueillir son point de vue sur ce qu'est devenue la justice française aujourd'hui, à l'heure où la vindicte populaire précède trop souvent l'application du droit. Petite parenthèse importante à destination des chefs d'entreprise qui m'écoutent, ce livre vous est aussi destiné, particulièrement si vous êtes issu de la génération qui entreprend sans avoir été salarié. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Maître Sophie Reichmann. Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de vous recevoir. Vous avez écrit un livre sur le burn-out. Donc le burn-out, on va bien entendu en parler. Comment je vous ai rencontré? Je vous ai vu sur un plateau de télévision. J'apprécie vraiment que vous m'ayez répondu aussi vite, mais j'ai beaucoup aimé votre intervention. C'était CNews, on peut le dire, hein, c'est pas grave. Je cherchais depuis un certain temps quelqu'un pour me parler de ce sujet. J'ai aimé l'approche juridique, puisque vous êtes avocat, accompagné en plus d'un point de vue de médecin. Donc il y a un point de vue à la fois juridique et médical. Donc est-ce que je peux vous demander, Sophie, si ça ne vous dérange pas, de vous présenter autant personnellement que professionnellement, en me disant que ce que vous avez envie de me dire?
Merci Estelle, déjà de m'avoir invitée. Effectivement, on a échangé au cours des derniers mois, souvent d'ailleurs pendant le confinement, ce qui a créé des liens, effectivement, et je suis absolument ravie que vous m'ayez fait l'honneur de m'inviter à ce podcast. Donc personnellement, bah, écoutez, une enfance tout à fait classique et un goût effectivement pour le combat, ce à quoi je n'étais pas forcément prédisposée, et surtout l'objectif d'avoir toujours des convictions et d'être aussi également de préserver cette capacité d'émerveillement qui, à mon avis, est fondamentale dans la vie malgré les aléas auxquels on peut tous être soumis. Voilà, ce livre coécrit avec le docteur Guillaume Font, qui est psychiatre, donc médecin, Nous l'avons écrit. Alors bon, c'est toujours, il y a toujours des anecdotes, effectivement, desquelles surgissent des beaux projets. Ce livre a été écrit après un dîner passé avec le docteur Guillaume Font, et avec lequel on échangeait souvent sur tous les domaines de la psychiatrie qui m'ont toujours absolument fasciné. Et après deux verres de rosé, on peut le dire, je dis à Guillaume, écoute, il faut absolument que nous écrivions un livre regard croisé psychiatre avocat sur le burn-out et le harcèlement professionnel. Bon, et puis ce projet est devenu une réalité grâce à la confiance que nous a accordée donc Isabelle Lafont des éditions Jean-Claude Attès. Ce livre est donc paru au terme de mois de recherche sur tout ce qui avait pu être écrit sur le burn-out d'un point de vue psychologique et psychiatrique. Voilà, donc Voyage au cœur de la souffrance, regard croisé d'un psychiatre et d'une avocate sur le burn-out et le harcèlement professionnel aux éditions Jean-Claude Attès.
Moi, j'ai adoré le livre. Alors, j'ai adoré le livre pour plusieurs raisons. Principalement, je vous dis parce qu'il y a un point de vue qui n'est pas un point de vue décorrélé de la réalité ou qui est, un peu stratosphérique et peut-être pas forcément très concret, pas accès solutions, alors que votre livre est accès solutions. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Vous citez des cas réels. Vous avez recueilli des témoignages de plusieurs catégories de personnes. Et parallèlement à ça, pourquoi je l'ai apprécié? Parce que je suis concernée. C'est-à-dire que j'ai pas cru, moi, pendant un temps, avoir fait un burn-out. Alors, déjà, pourquoi ce livre? Vous l'avez expliqué. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une définition, c'est un peu bêta, mais du burn-out, tout simplement?
Alors, le burn-out, c'est ce qu'on dit dans le livre, effectivement. Donc, à l'heure actuelle, c'est ce que j'ai appelé un objet non défini juridiquement. Donc, on a tous vu, effectivement, que ça avait fait l'objet de débats, notamment parlementaires, mais le burn-out n'est pas reconnu en tant que tel comme une maladie professionnelle. Dans le burn-out, ce que dit, docteur Guillaume Font, vous avez tout un ensemble, effectivement, de critères qui ont été élaborés par des échelles de valeurs, avec un épuisement émotionnel, une dépersonnalisation et notamment la perte de sens. Bon, sur la genèse du livre, ce qui est, vous faisiez allusion effectivement au témoignage. Ce livre est paru parce que j'accompagne depuis maintenant une quinzaine d'années des gens qui sont effectivement en épuisement professionnel ou en burn-out, puisque c'est la même chose, et qui viennent me voir avec un ensemble de symptômes qui sont extrêmement graves et avérés, j'entends médicaux. Et qui passent, comme vous le disiez, par des phases de déni, des phases de tristesse, et qui arrivent en fait quand tout est brûlé à l'intérieur. Donc j'ai accompagné ces personnes-là, et dès lors que le projet de livre s'est concrétisé et que nous étions donc, nous devions écrire ce livre, j'avais le souhait très vif que ce livre soit légitime et rendu légitime par les témoignages des gens que j'ai accompagnés et qui ont tous joué le jeu. C'est-à-dire que j'ai rappelé tous les clients que j'avais accompagnés et qui s'en étaient sortis, voilà, qui avaient rebondi, puisque c'est quand même une conviction, c'est qu'on peut rebondir d'un burn-out, on peut les éviter et on peut rebondir. Donc je les ai contactés et ils ont tous joué le jeu, en étant d'ailleurs ravis de pouvoir participer de manière anonyme, bien évidemment, à décrire par quelle phase ils étaient passés. Donc voilà, ce livre est donc issu des témoignages et construit autour des témoignages pour expliquer ce qu'est un burn-out, pour expliquer tous les signes avant-coureurs, ce sur quoi il faut réellement insister pour les gens et pour qu'ils évitent d'en arriver à cette phase de sidération et d'effondrement. Puisque le burn-out, c'est quelque chose qui arrive du jour au lendemain, avec des signes avant-coureurs certes, mais que les gens minimisent ou dénient. Et c'est, on passe de la vie en rose à un effondrement totalement brutal.
J'ai rapidement abordé le sujet, mais qu'est-ce qui fait que notre génération en fait plus que l'autre? Pourquoi déjà on a trouvé ce terme? Pourquoi on l'appelle pas dépression? Pourquoi on l'appelle vraiment burn-out? Et surtout, pourquoi nos parents en faisaient pas?
Alors, il y a tout un... Bon, ce qu'on décrit dans le livre, ça, c'est plus une analyse, effectivement, à mon sens, sociologique. Bon, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, on est passé au XXe siècle d'une période où on était... il y avait une pénibilité physique, et on est passé d'une pénibilité physique à une pénibilité psychique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le monde de Germinal, effectivement, mais... on a décalé la pénibilité sur un terrain psychique. Le terme du burn-out, en fait, il a été identifié, c'est très intéressant, par un psychiatre américain qui s'appelle Freudenberg et qui s'est lui-même auto-diagnostiqué comme étant en burn-out parce que un matin, il n'a pas réussi à se lever pour aller travailler. Donc c'est un terme qui a été utilisé d'ailleurs par les équipes soignantes à l'époque qui s'occupaient de gens qui étaient drogués dans les cliniques et qui étaient eux-mêmes en burn-out et en surchauffe, en épuisement. Donc c'est effectivement décrit par Freudenberg et puis ça a été décrit aussi évidemment dans les littératures médicales françaises. Alors après, pourquoi ? Sociologiquement, je pense qu'on est aussi, et ça personne ne le contredira malheureusement, je pense qu'on est dans une époque qu'on appelle la fast triade, enfin que j'ai appelé la fast triade dans le livre, c'est-à-dire hyper connexion, hyper réactivité, hyper réussite, hyper moi et hyper burn-out. Voilà, parce que on nous a inculqué, alors à tort ou à raison, je ne me pose pas en juge, sur le fait que l'on est maintenant maître de son destin, maître de son bonheur, maître de sa réussite et maître de son malheur.
Exactement.
Et donc on est dans un hyper individualisme aussi, et puis avec beaucoup d'injonctions paradoxales que nous renvoie la société, et puis les apparences, voilà, que l'on doit se créer, il faut être parfait, il faut être autonome, il faut réussir, il faut être productif. Donc c'est tout cet ensemble-là qui crée, à mon sens, des facteurs qui peuvent générer des burn-out, plus évidemment la suractivité, des cadences qui sont souvent très complexes et des pressions indéniables, effectivement, de la part de la hiérarchie de toutes organisations.
Et c'est intéressant ce que vous dites sur la surpuissance, enfin le sentiment de surpuissance sur tous les domaines de nos vies et sur le fait qu'on soit responsable à 100% de ce qui nous arrive.
La maîtrise.
La maîtrise, ouais.
Enfin la pseudo-maîtrise, pourrait-on dire.
Exactement. Mais si vous deviez catégoriser un peu à la fois les profils des brûlés,
Des
grands brûlés, et à la fois le profil des brûleurs, ou en tout cas s'il y a deux camps. Parce que parfois, on peut aussi se dire que c'est un contexte général, et qu'il n'y a pas forcément de victimes et de bourreaux, quoi. Enfin, c'est peut-être pas forcément comme ça qu'il faut voir les choses. Je suis pas très pour, d'ailleurs, ces points de vue, parce que il y a peut-être des gens qui se rendent pas compte qu'ils sont en train de pousser des gens dans leur retranchement. Enfin, voilà.
Tout
il faut peut-être aussi reconnaître le fait que ce soit pas forcément deux camps qui s'opposent, mais que ce soit une accumulation de choses ou un ensemble de, voilà, d'éléments qui font que la situation est telle. Mais ceci étant dit, il y a quand même des profils de personnes qui sont un peu plus aptes, enfin pas aptes, mais
susceptibles,
ou susceptibles,
voilà,
de faire un burn-out que d'autres. Tout comme il y a des profils de personnes qui sont plus susceptibles que d'autres d'être des brûleurs.
Donc c'est ce que l'on peut catégoriser, entre guillemets, si on doit le catégoriser, bien sûr, comme étant des profils de bons petits soldats qui sont potentiellement capables et susceptibles de faire un burn-out, mais en étant précisé, parce que faut absolument pas nier la culpabilité que ces gens ressentent. Donc il ne faut pas non plus que ces gens considèrent qu'ils sont fragiles.
Bien
Alors
sûr.
Ça, c'est un discours, je fais juste une aparté sur ce sujet-là, parce que c'est un discours, et ça, c'est du vécu. C'est que quand j'accompagne effectivement des gens qui sont en épuisement professionnel et que donc je prends attache, comme on dit dans notre langage juridique, avec des confrères en expliquant que mon client est en burn-out, j'ai très souvent des remarques acerbes de la part de mes confrères me disant « votre client, il doit être fragile, il doit avoir des problèmes personnels ». Donc c'est totalement faux, il n'y a pas de fragilité sous-jacente,
oui.
Il n'y a pas non plus systématiquement des problèmes personnels qui viendraient impacter le contexte professionnel. Donc le burn-out, c'est vraiment le contexte professionnel. Après, sur votre question sur les profils des grands brûleurs, il faut pas nier non plus la culpabilité de certains collègues qui peuvent effectivement avoir ne pas avoir perçu, si vous voulez, les difficultés, les signes avant-coureurs de leurs collègues qui ont disparu du jour au lendemain, culpabilité qui existe chez ces gens qui n'ont pas vu effectivement, qui peuvent ne pas s'apercevoir du comportement qu'ils ont eu, mais qui n'était pas forcément volontaire. Donc je fais vraiment une distinction, si vous voulez, entre des comportements qui seraient constitutifs de harcèlement professionnel et qu'on identifie dans le livre et que Guillaume Font appelle la dark triade. Donc il faut faire une distinction avec ça, et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs sur le plateau, c'est qu'il n'y a pas forcément de coupable, ouais. Voilà, dénommé, ouais. Etc. Donc et les gens peuvent effectivement, sans en avoir conscience, avoir des comportements qui font que ça va contribuer d'une manière ou d'une autre au déclenchement de cet arrêt brutal qui survient du jour au lendemain.
Alors, autre question, mais c'est toujours pareil sur la typologie des personnes. Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes ? Qu'est-ce que vous sentez ?
C'est d'après les études qui ont été faites, si on peut dire, la proportion est équivalente. Hein.
D'accord. Et en termes d'âge ?
Et en termes d'âge, vous pouvez avoir des jeunes d'une trentaine. Il y a même il y a évidemment énormément de burn-out chez les jeunes internes en médecine et les jeunes médecins, ça c'est clair, donc étudiants en médecine. Il y en a aussi très probablement dans les grandes écoles où, ça c'est probablement des choses qu'il faudra étudier. Et après, effectivement, vous avez une tranche d'âge. Moi, pour les clients que j'ai pu, que je peux accompagner, qui va de 30 ans à 55, 60 ans et tout profil. Tout profil confondu, que ce soit des dirigeants d'entreprise, des cadres ou autres, ou non cadres. Donc ça, il n'y a pas de prévalence non plus entre hommes et femmes. J'ai accompagné aussi des hommes, ou j'accompagne des hommes qui sont en burn-out aussi. Hein.
D'accord. Si je vous demandais de lister les gros signes avant-coureurs, sans pour autant, encore une fois, rentrer dans le détail du livre, mais les points d'alerte, là, si quelqu'un nous écoute et qu'il se sent un peu concerné, quels sont les points d'alerte ?
Alors, les points d'alerte, il y a tout un ensemble de signes. Alors, il y a des signes comportementaux, des signes cognitifs. Ce qui va intéresser peut-être vos auditeurs, c'est les signes médicaux avant-coureurs. Ouais. Donc, ce que j'ai pu constater et ce que disent tous les clients, c'est notamment des maux de tête, des maux de ventre, des problèmes de palpitations cardiaques, des problèmes dermatologiques, des problèmes gynécologiques pour certaines femmes. J'ai un client qui avait même perdu tous ses cheveux. Donc il y a tout un ensemble de signes physiques et médicaux qui sont vraiment à prendre en considération et qui doivent alerter et la personne qui les subit et surtout l'inciter à aller voir un médecin qui soit à même de l'accompagner. Parce que ce livre, en fait, est né, je ne l'ai pas dit, de la profonde conviction également et qui me paraît absolument indispensable, c'est que quelqu'un qui est en épuisement professionnel ou qui présente les signes doit être accompagné évidemment par un avocat s'il a besoin d'être conseillé, mais surtout doit être accompagné par un médecin. D'où l'idée de ce livre qui est construit à l'image de ce qu'on appelle les réunions, les RCP des médecins, où on va discuter d'un cas médical d'une personne à l'aide de plusieurs spécialistes pour envisager la meilleure solution. Donc c'est une vraie, véritable conviction de ma part, c'est que ces gens doivent être accompagnés à la fois par un médecin de prime abord, puisque c'est ce qui prime et c'est ce que je dis à mes clients, et par un avocat.
Oui, parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est que quand ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas tant d'analyser le fait qu'on soit en situation de burn-out, c'est vraiment, ok, je fais quoi ? Malheureusement, je crois qu'on n'est pas si mal dans son travail. Enfin, c'est pas forcément des jobs qu'on déteste ou... En tout cas, d'expérience, j'ai pas eu le sentiment. Moi, ce qui m'est arrivé personnellement, c'est j'ai eu des plaques d'urticaire. Enfin, je sais pas, j'avais des plaques rouges qui me sortaient partout. Donc, ça me fait penser à ce que vous veniez de dire sur les problèmes dermatos.
Oui.
J'avais des problèmes respiratoires. C'est-à-dire que j'avais mon truc là qui se refermait comme quand on boit du coca trop vite, j'arrivais plus à respirer. Je décalais mes rendez-vous en permanence. C'est-à-dire que j'avais un agenda hyper minuté. Mais je me voyais envoyer des mails à la dernière minute en disant « Désolé, je vais avoir un quart d'heure de retard. Désolé, j'ai une demi-heure de retard. »
C'est ça.
Je mettais 3 heures à choisir comment je m'habillais le matin. Alors que d'habitude, j'étais rien à faire. Voilà. Et en parallèle, j'adorais ce que je faisais. J'adorais mon boulot. Donc,
d'où la culpabilité
des gens qui
vivent un burn-out.
D'autant qu'en plus, moi, j'ai plus rien à cacher maintenant, mais... j'appréciais mon ambiance de travail, j'appréciais mes supérieurs, j'appréciais ce que je faisais. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même psychologiquement des signes avant-coureurs, parce qu'ils ne sont pas uniquement physiques, ils ne sont pas uniquement physiologiques, ils sont aussi psychologiques.
Tout à fait.
C'est la perte de sens que vous évoquiez tout à l'heure. Je me demandais pourquoi je faisais ça.
Tout à fait.
À plusieurs reprises. Et alors, la première réponse, c'est de dire, parce que je gagne super bien ma vie. Donc, je peux aller m'acheter des fonds quand je veux. Non, mais c'est vrai, moi, je suis tombée là-dedans deux pieds joints. Et je l'admets et je l'assume. Mais même ça, ça révèle un problème. C'est-à-dire que si c'est vraiment uniquement matériel, ça devient problématique. Mais là où j'ai eu le sentiment d'être complètement désarmée, c'est de me dire, attends, qu'est-ce que je fais? Par quel bout je prends le truc et comment je fais? Parce qu'il n'y a pas de grief. Enfin, il y a eu 2-3 trucs qui m'ont déplu. Bon. Mm-hmm. Mais on en parlait tout à l'heure. Ça dépend dans quel groupe on est, dans quelle situation on est, avec quelle génération de personnes qui sont nos dirigeants, oui. etc. Bon, ok. Mais s'il n'y a que ça, finalement, on se dit, bon, on passe à autre chose. Et c'est vrai que le désarroi profond, c'est comment je fais le truc? Comment je fais pour ne pas me retrouver à la rue du jour au lendemain, viré sans rien du tout? Est-ce que je dois quitter mon job? Est-ce que je dois en parler? Est-ce que je dois... Voilà, je vous le dis, donc accompagnement avocat plus médecin, mais un avocat, c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Comme ça, je dis juste, les gens se disent pas réflexe avocat tout de suite, ça va me coûter de l'argent, je truc et tout. Bon, le psy, y a encore des gens, malheureusement, qui ont encore une sorte de... Voilà, de... Ah non, je vais pas aller voir un psy, je suis pas folle ou je suis pas fou. Voilà, donc concrètement, sans encore une fois révéler, parce qu'il y a beaucoup de solutions dans votre bouquin, mais voilà, s'il y avait 2-3 trucs à dire, qu'est-ce que vous diriez là-dessus?
C'est ce qu'on dit, justement, pour rebondir sur ce que vous indiquez à l'instant, c'est que voir un psychiatre ne signifie pas qu'on est fou, et voir un avocat ne signifie pas que la guerre est déclarée. Bon, donc, pourquoi aller voir un avocat et pourquoi aller voir un psychiatre? Un psychiatre, bien évidemment, sera déjà à même, lorsqu'il voit une personne qui est au bout du rouleau, pour parler tout simplement, de lui prescrire un arrêt de travail et d'indiquer à la personne qui est en épuisement professionnel qu'il ne faut pas faire le dos rond et y retourner le lendemain comme de si rien n'était, puisque on arrive à une phase d'effondrement. Ouais. Pourquoi aller voir un avocat? Parce que l'avocat va aussi, en tout cas c'est la manière dont je conçois les choses et dont je fonctionne vis-à-vis effectivement des personnes que j'accompagne, c'est que ça va permettre déjà de sortir du déni, puisque les gens qui viennent nous voir souvent sont dans le déni. Et moi, je vois tous les jours des gens qui viennent me dire « Non, mais c'est pas grave, maître, ça va aller, je vais continuer, puis ça va bien se passer, puis j'aime mon métier, etc. » Donc, il y a déjà cette phase de déni sur laquelle il faut mettre un mot et que la personne prenne conscience du déni dans lequel elle s'est enfermée pour tenter de ne pas s'effondrer, croit-elle. Après, il y a ce que j'explique à mes clients, effectivement, c'est-à-dire la courbe du deuil. Donc ça qu'on enseigne plus en psychologie, les gens passent par toutes les phases, déni, colère, tristesse. Le but étant de les accompagner vers une acceptation et vers une sérénité. Bon, sans que ça soit du développement personnel, mais ça me paraît être fondamental de comprendre ces phases-là pour accompagner utilement la personne. Le rôle de l'avocat, ça va être aussi, c'est ce que je dis à mes clients, ça n'est pas de cristalliser un conflit ou de générer un conflit, c'est d'être ce qu'on dit l'advocatus de la souffrance de ses clients, d'en être le porte-voix auprès de l'employeur, et ça n'est pas systématiquement une guerre homérique qui va être ouverte, c'est plus de rétablir une communication avec des gens qui très souvent apprécient l'entreprise dans laquelle ils travaillent, les gens avec lesquels ils collaborent. Donc ça n'est pas un problème systématiquement de harcèlement, mais c'est la coupe est pleine et c'est un arrêt sur image. Donc le rôle de l'avocat, ça va être de les accompagner, de leur permettre d'officialiser leur douleur, leur souffrance, et puis de faire ce bout de chemin. Je dis souvent à mes clients, on va avoir un petit bout de chemin qui va être plus ou moins long. Le but, c'est que vous reconstruisiez et que vous sachiez vous-même si vous vous projetez ou pas dans les mois qui vont venir.
Bien sûr.
Dans le même job que celui que vous effectuez dans telle entreprise. Mmh. Et comment est-ce qu'on y parvient? Donc, on n'est pas du tout dans une logique conflictuelle. On est dans une logique de construction. Et dans laquelle l'avocat a tout son rôle à jouer, notamment en utilisant les outils de la médiation, ce à quoi j'ai été formé évidemment.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et qui sont extrêmement importants pour que la personne puisse, une fois cette période de troubles profonds et de souffrance, qu'elle puisse déjà voir le bout du tunnel et entreapercevoir la sortie du tunnel.
Et puis après, il y a l'après. Il y a l'après au l'après. Sens... moi, je sais que c'est une phase que j'ai mal vécue. Parce qu'une fois que j'avais trouvé mon accord, que j'avais décidé de partir, parce que j'ai décidé de quitter la boîte dans laquelle j'étais, plus parce que j'avais pas de réponse au pourquoi je fais ça, pas parce que j'aurais pu prendre des vacances, me reposer, etc. Mais c'était un problème de fond. Mais c'est l'après. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais, où je vais, qui suis-je. Enfin, on a tous après des questionnements profonds parce que le fait de brûler, bon, bah après faut reconstruire sur les cendres, faut rebâtir un bâtiment, ouais. Voilà, faut repartir quoi. Et du coup, bah on a un peu l'impression de repartir d'une page blanche, de pas savoir dans quelle direction aller. Moi, j'ai tout remis en question. Mes études, j'ai remis en question mes choix. Sans les renier, sans en être... voilà, j'étais heureuse de tout ce que j'avais fait, mais c'est vrai qu'après, je me suis sentie perdue. Mais perdue au sens pas accompagnée et toujours pas légitime d'être accompagnée. Parce que je m'étais libérée. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais dit, bah ça y est, c'est bon, quoi, t'as repris ta liberté, vas-y, quoi, fais ce que t'as envie de faire.
Mais est-ce que vous aviez eu un accompagnement ou pas ?
Non. Alors, je suis retournée voir un psy, mais je crois que j'ai pas abordé ce sujet-là. C'est-à-dire que le problème est là, on tombe... Je pense dans une problématique vraiment. Ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir le point de vue de votre co-auteur psychiatre. Je suis peut-être pas allée voir les bonnes personnes. C'est-à-dire que je suis allée voir quelqu'un qui était freudien. Vous voyez, qui était plutôt dans une optique, voilà, d'analyse. On remue un peu le passé, le truc et tout. On essaye de comprendre les causes, etc. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas eu le vrai encadrement nécessaire avec des gens compétents pour comprendre ce qui m'arrivait. Et je crois encore une fois que c'est générationnel.
Comprendre et apporter des solutions.
Ouais.
Et
ouais.
C'est non seulement, bien évidemment, le rôle du psychiatre, bien sûr, et de certaines psychothérapies, comme on en parle dans le livre. Et j'ai peut-être alors l'immodestie de penser que par l'accompagnement que je peux donner effectivement à mes clients, qui est juridique, bien évidemment, j'insiste dessus, mais j'essaye de les aider à se projeter effectivement pour que lorsqu'un accord est trouvé ou lorsque la voie contentieuse est inévitable, que les choses aient pu être dites, qu'elles aient pu être identifiées et que les personnes, comme je leur indique, se soulagent du fardeau qu'elles trimballent depuis des mois. Et pour mieux rebondir après. Et pour moi, mieux rebondir après signifie avoir identifié les causes effectivement de son burn-out, ne plus culpabiliser, les avoir verbalisées pour pouvoir révéler le potentiel que ces gens ont, et c'est ce que je leur dis à longueur de temps. Je leur dis, vous irez mieux dans quelques mois, voilà. Vous avez une compétence qui est évidente, vous ne la niez pas et vous allez la recouvrir.
Mais c'est ça que je voulais souligner en vous invitant, c'est qu'il y a un vrai suivi à faire et c'est un vrai dossier à prendre en charge. Il ne faut pas le prendre à la légère.
Non.
C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les accès qu'on a à des lectures diverses et variées, on croit qu'on peut s'auto-soigner, on peut effectivement se faire du bien en écoutant des trucs, en lisant des trucs, etc. Mais je crois que vraiment, on n'a pas pris conscience que tout ça, ça s'inscrivait dans un changement de paradigme profond sur le marché du travail, dans l'économie. Je crois que le burn-out, il y a 25 ans ou il y a 30 ans, il aurait peut-être pas pu se passer. Enfin, c'était pas de la même... on parle pas des mêmes choses et de la même époque. Mais moi, ce que j'ai peut-être sous-estimé, c'était la prise en main qui devait être concrète et très rigoureuse, en fait, j'ai envie de dire.
Oui, voilà. Je pense qu'il faut beaucoup de rigueur. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans un domaine, c'est ce qu'on écrit dans le livre, effectivement, où on va droit dans le mur si les émotions ne peuvent pas être exprimées. Donc ça, c'est très clair. Et il ne faut absolument pas les balayer d'un revers de main. Maintenant, il faut que ces émotions soient exprimées et le rôle de l'avocat, ça n'est absolument pas ésotérique, le rôle de l'avocat est de verbaliser les émotions et les ressentis auprès de la partie adverse. Enfin, c'est le nom que ça porte. Et ça, c'est extrêmement important. Mm-hmm. Et si jamais elles ne le sont pas, ça n'est pas l'intérêt du client. Voilà. Et dans le cadre de sa reconstruction future.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le livre que vous n'avez pas encore dit ? Parce qu'il est sorti il y a quelques temps maintenant.
Il est sorti le 5 février, juste avant la période de confinement qui a peut-être généré, on n'a pas encore les retours, mais qui a peut-être généré des épisodes de burn-out.
Ou en tout cas qui a remis en question le travail.
Voilà, qui a remis en question le rapport au travail, notamment, évidemment, comme on peut l'entendre en ce moment avec le télétravail. Certaines entreprises qui envisagent de passer en 100% télétravail. Certaines entreprises aussi qui expliquent qu'elles ont beaucoup de mal à faire revenir les collaborateurs. Voilà, donc tout un ensemble de questions diverses et variées. Mais en tout cas, ce qu'on voit toujours dans la presse, c'est que le burn-out reste un sujet d'actualité.
Un peu plus que jamais. Alors, le burn-out, peut-être pas au sens burn-out, mais c'est bien-être au travail, la position qu'on a au travail. Parce que je crois qu'il y a des gens qui ont fait des burn-out chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, là, avec le télétravail, le truc, moi, j'ai vu des catégories de personnes, des gens qui n'en pouvaient plus. C'est-à-dire de devoir gérer le fait de ne pas sortir de chez soi, de rester chez soi, de devoir travailler, faire la bouffe.
En Zoom toute la journée, sans déconnexion. On va pas parler du droit à la déconnexion ici, mais il n'y avait plus d'horaire. Donc, ils étaient connectés dès 7 heures du matin et bossaient effectivement beaucoup plus. Et surtout, ce que disent tous les gens auxquels j'ai pu échanger de ce sujet-là, ils disent mais on est coupé, on n'a plus d'échange de visu, c'est devenu compliqué. Tout passe par des Zooms, tout se passe par des calls, tout passe par des SMS, des WhatsApp. Donc c'est un rapport au travail qui effectivement a été quand même bouleversé évidemment par le coronavirus et par les modes de travail qui en découlent. Après, probablement que ça générera des modifications profondes sur le rapport au travail dans les mois ou les années qui vont venir. Et peut-être que ce que l'on indique dans le livre aussi, on passera de ce qu'on appelle le new management. À l'heure actuelle, j'ai eu une notion qui a été lancée par un prix Nobel d'économie Taylor sur. C'est l'histoire de la mouche en fait dans l'aéroport d'Amsterdam pour créer des biais cognitifs et pour inciter les gens à viser dans les urinoirs le bon endroit. Et à réduire les coûts de nettoyage. Bon, et au-delà de la blague, c'est effectivement le new management, c'est quelque chose qui a beaucoup d'écho actuellement chez les RH. Le tout étant d'inciter par des biais cognitifs les collaborateurs à pouvoir se reconnaître dans les valeurs de l'entreprise. Donc c'est des valeurs de camaraderie, etc. pour que le collaborateur soit mieux. Et la question, c'est est-ce que on passera du new management au new management qui serait un management sincère, empathique et qui révélerait les fragilités de chaque manager éventuellement. C'est ce qui semble apparemment recueillir, d'après les sondages, les qualités, si vous voulez, les qualités essentielles des nouveaux managers. Bon, d'accord. On verra. Okay. Et on verra également si tout ce qui a été mis en œuvre, comme, sans que ce soit une critique, c'est juste une observation. Et on verra ce qu'il en sera effectivement en termes quantifiables dans les années à venir de tout ce qui est atelier de yoga, de kapla, de ruche sur les toits des entreprises et de chief happiness officer. Mais ça, c'est un débat, je trouve, beaucoup plus profond puisque, en fait, c'est un glissement sémantique qui s'est opéré depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, enfin, on en parle encore, mais on parlait beaucoup des risques psychosociaux. Et sémantiquement, on s'aperçoit qu'on s'oriente vers la notion de bonheur au travail. Donc la question à laquelle ça renvoie et sur laquelle on peut s'interroger, c'est est-ce que le bonheur est une notion dont doit s'emparer dans l'entreprise ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui reste dans le champ intime et le ressort intime de chacun de nous ?
Je ne sais pas si le lieu de travail est fait pour qu'on soit heureux. Enfin, déjà, est-ce que la vie est faite pour qu'on soit heureux ? Je ne sais pas. dans l'absolu, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le bonheur, déjà, la définition qu'on en fait personnellement, c'est un truc. Alors, en plus, le confier à un employeur, c'est compliqué, je pense.
Et est-ce que ça ne crée pas une culpabilité quand vous avez des collaborateurs auprès desquels on met tout un ensemble de dispositifs pour qu'ils soient bien, que ça passe par les tables de ping-pong, etc. Ouais. S'il s'avère qu'ils ne sont pas bien, pour une raison ou une autre, est-ce que ça ne leur renvoie pas une culpabilité par rapport aux moyens qui ont été mis à disposition et à l'injonction qu'il faut être heureux au travail?
Bien sûr, parce qu'eux-mêmes peuvent faire un burn-out. Quelque chose à ajouter sur le livre?
Lisez-le. Non, c'est quelque chose à ajouter, c'est aussi bien aux entourages des gens qui sont en épuisement ou qui ont les signes avant-coureurs. Voilà, ce que j'incite tout le monde à lire, parce qu'il faut les identifier et il faut les connaître.
Ouais.
Aussi bien pour soi que pour les autres, que pour ses enfants, que pour ses amis.
Ouais.
Et on a les moyens de les découvrir de manière très simple. Donc, ouais, je vous incite à lire. Et surtout, il y a des solutions. Donc, c'est un message d'espoir. Les gens ne sont pas seuls et on peut tout à fait rebondir d'un épuisement professionnel et on peut le prévenir.
Mais j'insiste sur le fait que ça doit être lu non pas uniquement si on est victime ou entre guillemets même si on a fait un burn-out ou si on en fait un, mais je pense que c'est à mettre entre les mains des managers. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut aussi que, sans les culpabiliser, sans faire en sorte qu'ils se sentent sous pression aussi, mais peut-être arrive sur le marché de l'entrepreneuriat une catégorie de dirigeants qui, eux, sont en général très jeunes, n'ont pas travaillé auparavant, ouais, ne se sont pas confrontés à des difficultés, des humiliations, des trucs qui leur sont arrivés puisqu'ils ont monté leur boîte très rapidement. Donc j'ai envie aussi de dire que parfois, la nouvelle génération d'entrepreneurs, donc de dirigeants, donc de managers, peut être plus propice, on va dire, à être insensibilisé à certaines problématiques humaines, on va dire ça comme ça. Enfin, je me permets de dire ça parce que j'ai lu votre livre et que je crois que il n'est pas uniquement destiné à la partie brûlée, mais aussi à la partie de gens qui sont à la tête d'entreprise, qui ont des salariés, tout simplement. D'autant que je crois qu'on arrive à un stade là où il y a une espèce de dichotomie entre ce qu'on met dans la boîte, à savoir des tables de ping-pong, des cours de yoga, ouais, et le comportement réel des dirigeants qui parfois sont beaucoup trop durs, quoi. Enfin, beaucoup trop axés résultats, axés compétitivité, etc. Et je le vois moi autour de moi. Ben, en fait, il faut garder un peu d'humanité, quoi.
Et de la communication.
Et surtout de la communication.
Et de l'écoute, hein.
Bien sûr.
Mais ça passe par une sensibilisation également des étudiants, je pense. De
oui,
savoir
ça commence
que
très tôt.
Les futurs, effectivement, personnes qui vont monter leur boîte ou qui vont être amenées à être des managers, entre guillemets, doivent être sensibilisées, effectivement, à ce qu'est un burn-out et ce qui peut être constitutif également de harcèlement.
C'est clair. Mais je voulais aussi, là on va prendre un peu de hauteur sur votre métier. Vous êtes avocat, spécialisé en droit social,
oui,
mais vous avez quand même un parcours divers dans ce secteur. Qu'est-ce que vous voyez, on reste sur l'aspect social, depuis 20 ans d'expérience, qu'est-ce que vous avez senti comme évolution au niveau du droit social? Alors autant du côté des gens qui ont besoin d'avoir accès à la justice, que du traitement judiciaire de certains cas, en fait. Moi, je me pose des questions.
Alors, il y a beaucoup d'évolutions. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, effectivement, des différentes réformes qui sont intervenues et qui sont très complexes pour les professionnels que nous sommes. Voilà. La période de confinement a aussi révélé la complexité de cette matière qui est très riche, très dense et qui évolue quotidiennement, ce qui était le cas en tout cas pendant le confinement et ce que moi j'ai vécu. Et des situations souvent assez ubuesques où on en arrivait à dire exactement le contraire le lendemain de ce qu'on avait dit la veille à ses clients. Bon, c'était assez inconfortable quand l'objectif est quand même d'apporter une sécurité juridique à ses clients. Mais c'est un exercice qui est effectivement assez intéressant avec une remise en cause des connaissances que l'on pouvait avoir. Donc beaucoup de changements, voilà, des codes qui se densifient chaque année, une complexité, voilà. Ce que moi je salue et je pense qu'est l'avenir et j'en suis convaincue et pour y avoir été formé moi-même, c'est les modes d'alternatives de règlement des litiges, et notamment au titre desquels la médiation, qui à mon avis a tout doit recueillir les faveurs effectivement des entreprises, voilà, et des salariés, et tout ce qui est mode de droit collaboratif qui ont le vent en poupe, mais à juste titre, me semble-t-il.
D'accord. Qu'est-ce que vous appelez une mode de droit collaboratif ?
Alors, vous avez plusieurs, dans ce qu'on appelle les MARD, c'est les modes alternatifs de règlement des litiges.
Oui.
Vous avez la médiation, vous avez le droit collaboratif, l'arbitrage, enfin tout un ensemble de mesures et le droit participatif. Et ça me paraît être voué à un avenir très très positif et très créateur de bonnes solutions. Puisque
ça peut désengorger les tribunaux.
Ça désengorge aussi. Effectivement, et surtout, alors dans le cas des 100, bien sûr, il y a ce qui relève de la justice qui devra toujours être traité par les tribunaux. Donc mon propos n'est absolument pas de contester, bien évidemment, les modes judiciaires classiques, mais la médiation, par exemple, pour parler de médiation. C'est des solutions qui sont souvent intelligentes parce que c'est des solutions qui vont permettre, avec un tiers neutre, impartial et confidentiel, qui vont permettre aux parties de trouver une solution elles-mêmes.
C'est
et ça. Pourquoi c'est positif ? Parce que même si on fait, si on sort un petit peu du domaine du droit social, ça va permettre, par exemple, à des sociétés qui avaient des relations commerciales depuis 20 ans, qui ont un conflit à un instant T donné, eh bien, grâce à une médiation et un accord auquel elles auront pu parvenir elles-mêmes, leurs relations commerciales pourront continuer.
Oui.
Voilà. Donc,
oui.
C'est à
ça
mon
perdure.
Sens une évolution que je salue et que je trouve extrêmement positive.
Vous avez raison. J'y avais pas pensé. Trouver des solutions par soi-même n'est pas se faire justice soi-même,
non.
Ce qui est très différent. Et c'est pour ça que je me permets de faire ce lien entre ce qu'on disait juste avant d'appuyer sur le bouton on de l'interview. J'avais envie d'avoir votre point de vue d'avocat, spécialiste du droit, sur ce qui est en train de vivre notre pays au niveau de la justice.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis meurtrie par certains comportements et par certains... alors, à la fois décisions de justice, mais aussi comportements populaires. Et on parlait de justement de la vindicte populaire tout à l'heure, et j'aimerais bien vous entendre sur ce point, sur cet aspect-là de l'actualité.
Alors, je suis tout à fait, je salue en fait évidemment les différents mouvements sociaux qui ont permis de mettre à jour, bien évidemment, des affaires qui n'auraient peut-être pas été mise à jour sans ces réseaux sociaux. Donc ça, c'est une chose, effectivement. Ce pour lequel je suis plus inquiète, mais c'est probablement une déformation de juriste, effectivement, c'est le poids des réseaux sociaux et l'immédiateté. C'est-à-dire que des affaires qui doivent passer normalement par les services de police et un temps d'enquête et un temps surtout de justice ne sont plus forcément, ne respectent plus forcément ce calendrier-là. Donc il y a des efforts effectivement à faire au niveau du temps qui peut être considéré très long par les parties. Le temps de la justice, c'est une chose, que la vindicte populaire puisse s'exprimer au travers de hashtags qui sont tweetés en deux minutes sur les réseaux sociaux et qui peuvent détruire à tort des carrières et des vies me semble beaucoup plus gênant sur le rapport ça peut avoir avec la justice et le temps nécessaire et surtout la légitimité la justice à intervenir dans ces cas de figure. Donc c'est un phénomène qui mérite, je pense, de retenir toute notre attention et d'être surveillé de près pour ne pas bifurquer ces affaires-là du domaine judiciaire.
Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur la période post-confinement, enfin sur ce qu'on est en train de traverser là actuellement ? Quels sont vos ressentis ? Vous êtes certainement en contact avec des clients, avec des gens qui sont repartis au boulot, des gens que vous avez d'ailleurs interviewés dans le cadre du livre. Hein, mais qu'est-ce que vous ressentez dans l'atmosphère en ce moment en France ?
Une atmosphère quand même d'une grande inquiétude, évidemment, sanitaire, mais ça c'est tout à fait légitime. Une période, je pense, qu'on n'avait jamais vécue, effectivement, même si on doit faire des comparaisons dans l'histoire, parce que toutes les générations sont confrontées. Et une grande inquiétude évidemment sur la situation économique à venir, notamment des chefs d'entreprise qui savent très bien que les mois à venir vont être compliquée, si ce n'est dramatique, voilà, avec bon, des systèmes qui ont été mis en place, mais que les gens expliquent comme étant des systèmes de perfusion, voilà, et des craintes par rapport au retrait des perfusions. Donc on considère évidemment, enfin on constate beaucoup d'inquiétudes et un certain attentisme aussi, voilà, de la part des entreprises.
La France, vous en pensez quoi ? C'est, alors là, on rentre dans les trois questions que je pose parce qu'on arrive à la fin d'interview dans 5 minutes. Mais c'est les trois questions que je pose en fait à tous mes invités maintenant depuis un certain temps. C'est leur vision de la France. Alors je sais que, attention, c'est fait exprès, ça fait très question à 1 million de dollars, mais c'est volontairement un entonnoir. Hein, c'est vraiment... Voilà, quel est votre feeling, indépendamment de votre métier, de ce que vous avez écrit, etc. C'est vraiment... en tant que Française.
Un pays que j'aime profondément, auquel je suis attachée profondément, qui est un pays que je trouve merveilleux, plein de richesses, plein d'agilité, qui se démontre tous les jours. Alors moi, j'ai été particulièrement bluffée par les restaurateurs qui, par exemple, ont su aménager des terrasses extrêmement conviviales dans tous les coins de Paris et qui démontrent
capacité d'adaptation,
cette touche française que l'on a de toujours rebondir et de savoir quand même créer de la joie avec des petits moments. Donc donc c'est un pays auquel je suis fondamentalement attachée, donc je suis très fière, qui est un pays absolument magnifique, qui témoigne d'une richesse culturelle et géographique exceptionnelle, hein, qu'on doit aimer, hein, pour lequel on doit tous se battre, et en essayant de vivre tous dans la mesure de ce qu'on peut faire à l'heure actuelle pour qu'on se sorte tous effectivement la tête haute de cette période extrêmement compliquée. Donc j'ose espérer que mes espoirs ne sont pas vains et il faut se battre pour.
Ouais. Les deux dernières questions, alors c'est un coup de cœur et un coup de gueule. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Un coup de cœur, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un livre, ça peut être une rencontre, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être... peu importe. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Et puis un coup de gueule, ça peut être... vous pouvez prendre le temps de la réflexion. Et un coup de gueule, c'est un truc qui vous énerve, tout simplement. Que vous avez vu récemment ou qui vous énerve de manière cyclique. Voilà.
Les coups de cœur, j'en ai en fait, j'en ai très régulièrement, puisque bon, c'est peut-être de la naïveté chez moi, mais j'ai cette capacité d'émerveillement, je pense. C'est des rencontres, hein, voilà, qui peuvent être diverses et variées. J'adore rencontrer des gens qui sont, qui créent des choses, qui y croient, qui ont des convictions.
Ouais.
Et je trouve ça merveilleux. Et comme je trouve qu'il est absolument nécessaire et à la fois utile de garder notre capacité d'émerveillement qu'ont les enfants. Donc ça c'est mes coups de cœur et j'en ai plein. J'en ai au travers de lectures que je peux faire, au travers de rencontres comme vous, Estelle, aujourd'hui.
Merci, voilà. Chouette, je suis ravie, moi aussi.
et je suis toujours émerveillée par ces rencontres. Les coups de cœur, c'est aussi se rendre compte que par votre intermédiaire, en ayant un peu de culot, les gens peuvent se rencontrer, peuvent faire des choses merveilleuses, avoir des projets, donc et aller de l'avant, voilà.
Génial.
Donc ça, c'est un petit peu mes coups de cœur, mais qui sont divers et variés parce que j'essaye d'en avoir très souvent et de favoriser ces rencontres. Les coups de gueule, j'en ai régulièrement, donc tout ce qui va avoir trait à l'injustice,
bien sûr.
Au sens large du terme, souvent des coups de gueule quand je vois des injustices vis-à-vis d'enfants, et puis tout ce qui peut ne pas être honnête, moral, va susciter chez moi des coups de gueule.
Bien sûr. Quelque chose à dire en conclusion ? Vous vouliez ajouter quelque chose, non ?
Que je suis ravie de cette rencontre.
Et moi aussi. Moi aussi. Merci beaucoup,
merci
Sophie.
Merci, Estelle.
Merci, à bientôt et bonne route à vous.
Merci.
Et bonne vente du bouquin, parce que vraiment, lisez-le. À bientôt.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.